La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La voix de l'emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.
Bienvenue à vous tous, auditrices, auditeurs, dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Une mission pour chacun au service de tous, tel est le slogan du service civique, dispositif national qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Le service civique est un dispositif d'encouragement à l'engagement pour la citoyenneté, créé par la loi du 10 mars 2010. Il est entré en vigueur le 13 mai 2010. Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser la mixité sociale et offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap de s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général. Alors, quelles sont les caractéristiques du service civique et peut-on faire un lien entre l'engagement citoyen et l'accès à l'emploi? On va répondre à ces deux grandes questions avec nos invités qui sont venus nous apporter quelques réponses. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Zerkaoui. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Vous êtes référente service civique, chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement de l'Isère. Alors, avant de présenter les autres invités, une petite réponse. Pourquoi la Ligue de l'enseignement se retrouve liée au dispositif du service civique ?
Ah, c'est une longue histoire. La Ligue de l'enseignement, bah, qui a fêté ses 150 ans il y a 2-3 ans, hein, oui, je crois. Historiquement, la Ligue a toujours été engagée auprès de la jeunesse, hein, autour de l'éducation, bien sûr, hein, puisqu'on est un mouvement complémentaire de l'école, mais on est un mouvement d'éducation populaire. Et quand il y a eu la mise en place en 2010 du service civique par Martin Hirsch, hein, l'agence du service civique, c'était une évidence pour la Ligue de l'enseignement de s'engager sur ce dispositif pour accompagner la jeunesse, mais aussi les associations, puisque nous sommes une fédération d'associations, c'est notre existence en fait.
Alors, à vos côtés, Vincent Huette, bonjour. Alors oui, Vincent, bah, essayez dans le micro.
Bonjour, bonjour.
Oui, ça marche, c'est juste la lumière qui ne marche pas.
D'accord, ça va, bah, c'est toi.
Donc on vous entend. Alors Vincent, vous êtes animateur territorial à Unicité, une association qui est née bien avant le service civique. Hein. C'est début des années 90, 94,
95,
je crois. 95,
c'est ça.
Quelques mots peut-être, juste pour nous rappeler ce qu'est Unicité.
Bah, alors Unicité, c'est une association d'éducation populaire qui est présente sur tout le territoire français. Et donc en fait, si on est lié au service civique, c'est que c'est eux qui ont créé l'expérimentation sociale. En fait, le concept du service civique a d'abord existé bah, par des acteurs d'Unicité. Et donc pour le coup, aujourd'hui, l'association, elle accueille en son sein toutes les années différents programmes avec un gros nombre de volontaires. On est 90 sur l'antenne de l'Isère. Voilà.
Et puis nous avons deux jeunes qui sont volontaires pour une mission donc, de service civique. Il s'agit de Caroline et Basile. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue à News FM. Alors on reviendra un peu plus dans l'émission sur qui vous êtes, votre parcours. Et puis vous nous expliquerez un peu plus donc, ce que vous faites dans le cadre de ce service civique. Mais juste un mot pour nous dire ce qu'est votre mission et dans quelle structure.
Alors nous du coup on est des jeunes ambassadeurs des droits pour l'égalité. Et donc, on est en service civique à Unicité et on travaille pour le défenseur des droits.
D'accord, donc vous êtes tous les deux engagés sur le même type de mission.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Très bien. On vous retrouve un petit peu plus tard. Mais comme je le disais, n'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir sur des choses qui sont dites. En général, même si je pose une question à l'un d'entre vous, les autres sont libres aussi de pouvoir apporter une réponse. Alors, merci à tous les quatre, d'abord, d'avoir répondu à notre invitation. Myriam, Vincent, l'histoire de l'engagement volontaire et citoyen en France, ça commence pas avec le service civique. En 2010, il y a des choses qui existaient déjà avant.
Ah, ben on va revenir un peu sur l'histoire. Moi, je vais remonter
rapidement, sans trop rentrer
rapidement,
dans les détails.
Mais 1960, voilà. Où il y a eu la reconnaissance de l'objection de conscience pour les garçons qui ne voulaient pas faire leur service militaire. Et en contrepartie, donc c'était reconnu, parce qu'avant, il n'y avait pas l'objection de conscience. Et du coup, tous ces jeunes garçons pouvaient s'engager pour 2 ans au service de l'intérêt général dans une association. C'est là qu'a commencé la question de l'engagement. Donc, ils avaient en contrepartie une indemnité. Et c'est vrai que dans ces années-là, c'est là qu'on a vu l'émergence des cinémathèques, des projectionnistes qui allaient... Nous, on en a accueilli au cinéma Le Méliès, hein, qui, voilà, à l'époque, les objecteurs, mais il y en a eu dans les MJC, il y en a eu partout. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et puis, bien sûr, ensuite, en 1997, M. Jacques Chirac a suspendu le service national obligatoire. Et ensuite, il y a eu différents dispositifs, mais je laisserai la parole, puisque Unicité a été un des acteurs. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse, finalement? Il n'y a plus le service national. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a eu plein de dispositifs, le service civil, etc. Et puis, en 2010, bien sûr, il y a eu la création vraiment d'un véritable statut d'engagement de jeunes, du service civique volontaire. Voilà, c'est... on ne va pas retracer tout, mais je vais...
Oui, alors, Vincent, peut-être juste quelques précisions sur cette période entre 1996 et 2010.
Myriam a très, très bien résumé. Donc, en fait, il y a eu pas mal de tests, pas mal de formules qui ont été essayées. Donc, en fait, finalement, c'était pour transformer d'un service militaire en une action un peu plus sociale, un peu plus collective. Et donc, pour le coup, pour résumer, pour en arriver jusqu'en 2010 à la formule qu'on connaît aujourd'hui, et où, voilà...
Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'en 2010, il y a eu cette création de service civique? Qu'est-ce que ça a amené de plus ou qu'est-ce que ça a organisé de mieux?
Je pense qu'en fait, c'est le service civique universel. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si universel que ça, qu'il n'était pas vraiment pris en main par des jeunes. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un effort qui a été fait pour mieux encadrer, en fait, finalement, les démarches, mieux structurer les actions. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est ce que ça a apporté.
Oui, l'histoire, effectivement, de la création en 2010, c'est qu'avant, on ramène tout ça à la question des émeutes en 2005. Hein, je crois que c'est ça un peu l'histoire. Et puis, le temps que tout ça se mette en place, il y a eu cette volonté de créer ce dispositif. Mais ça n'a pas été vraiment... au début, c'était compliqué. Hein, ça balbutiait. C'est en 2015 que le gouvernement Hollande, François Hollande, a souhaité rendre le service civique universel. En clair, ça veut dire que tout jeune qui souhaite s'engager... puisse trouver une structure d'accueil. Donc il a fallu que ce gouvernement et tous les ministères puissent pousser un petit peu pour que tout le monde s'engage à accueillir des jeunes volontaires. Voilà. Donc il y a les associations, il y a les collectivités territoriales, les services publics. Hein, c'est là qu'il y a eu la montée en charge véritable du service civique en 2015, hein, avec l'objectif de 160 ou 170 000 volontaires.
Alors, vous avez cité cette fameuse période des émeutes de l'année 2005. Le service civique s'adresse à tous les jeunes, quel que soit leur milieu social. Or, les émeutes, ça touchait davantage les jeunes dits des quartiers, des banlieues. Il me semble avoir entendu que le service civique a du mal à trouver ce public jeunes des quartiers populaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pourquoi est-ce que ces jeunes-là ont plus de mal à répondre à cette offre?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif quand même très, très particulier. On sort du champ de l'emploi traditionnel. Et donc, pour le coup, on parlait d'accompagnement des structures à encadrer les jeunes dans ce dispositif. Et en fait, il y a quelques dérives. Et les jeunes de quartier ne sont pas forcément au courant des tenants et des aboutissants. Donc, en fait, finalement, on se rend compte, au bout de quelques années de mise en place, que les jeunes de quartier sont seulement 6% à prendre en main ce dispositif. Et donc, y a un effort qui est fait en ce moment même pour le rendre plus accessible.
D'accord. Revenons donc sur le dispositif lui-même, l'organisation. Myriam, vous avez cité l'agence du service civique. Donc, c'est finalement un peu la structure qui est tout en haut de la pyramide. Et ensuite, comment ça se décline sur l'ensemble du territoire français?
Alors, l'agence du service civique a été créée, justement, c'est Martin Hirsch qui l'a mise en place, c'est elle qui pilote tout le dispositif. Hein. Donc, c'est une agence indépendante, mais complètement financée par l'État. Hein. Voilà. Et l'agence du service civique est tenue de faire connaître le dispositif, de mobiliser les structures pour avoir des agréments collectifs. Et ensuite, c'est décliné dans les régions. Alors, je vais être un peu technique, hein, les DRGSCS régionales et ensuite les DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, donc par département, qui, eux, sont tenus de fournir les agréments aux structures qui souhaitent accueillir des jeunes, puisque qui peut accueillir des volontaires, ce sont les associations. Il faut savoir quand même que 80% des missions se font dans les associations. Ensuite, il y a les collectivités locales et puis, bien sûr, maintenant, les services publics, Pôle emploi, etc. L'éducation nationale aussi depuis 5 ans. Hein, voilà. Mais il y a les agréments nationaux, comme la Ligue de l'enseignement en communicité ou d'autres structures. Et puis ensuite, il y a les agréments locaux. Mais les structures qui ne veulent pas demander un agrément, qui souhaitent accompagner, elles peuvent passer par l'intermédiation. C'est ce que fait la Ligue de l'enseignement, c'est ce que fait Unicité. L'intermédiation, c'est comme le mot l'indique, hein, intermédiaire entre une structure et entre le dispositif d'État. Voilà.
Oui, Vincent, vous vouliez...
Très, très bien expliqué, voilà, c'est ça.
Voilà, j'ai cru que vous vouliez rajouter quelque chose, j'ai vu votre expression.
Mais c'est juste que franchement, nous, sur le terrain, on voit quand même que c'est assez pertinent de proposer une intermédiation, parce qu'en fait, dans ces associations qui ont un agrément national, il y a une réelle expertise et une réelle plus-value, en fait, à prendre l'intermédiation dans le suivi du volontaire, dans l'accompagnement du tuteur de mission, donc c'était très bien résumé, et nous, on fait la même chose au quotidien.
Alors Myriam, vous l'avez dit, 80% des services civiques environ des missions dans le monde associatif. Est-ce que ça a été voulu au départ pour que tous les milieux professionnels puissent accueillir des services civiques ou d'emblée on savait que, par exemple, les grosses entreprises, c'était pas adapté
Ah oui, évidemment, on ne parle pas des entreprises privées, encore heureux qu'il n'y ait pas de services civiques dans l'entreprise privée, ce n'est pas du tout l'objet, puisqu'on sort d'un dispositif d'emploi complètement, et ce n'est pas non plus un dispositif d'insertion, on a tort de dire pour insérer les jeunes, non, c'est un dispositif d'engagement de la jeunesse. Donc évidemment, qui pouvait accueillir au départ, ce sont les associations où il y a des projets intéressants, où les jeunes peuvent s'engager. Et c'est ensuite qu'il y a eu l'ouverture au service de l'État, au service public. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Si, tout à fait. Alors, c'est vrai que malgré le fait que les entreprises privées ne sont pas adaptées, on sait qu'il y a une problématique. On en parlait déjà avant de prendre l'antenne, des dérives au niveau des missions qui sont confiées aux services civiques par des organismes d'accueil qui profitent tout simplement de cette matière première, excusez-moi, jeunes gens, de cette force d'emploi. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Là, on continue pour bien comprendre un peu le dispositif. Alors, il me semble avoir compris qu'il y avait quand même deux formes de service civique. L'un qui dure de 6 à 12 mois, j'en parlais au début, donc l'engagement de service civique destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, est principalement financé par l'État. Et puis, il y a le volontariat de service civique, également dénommé volontariat associatif, d'une durée pouvant atteindre dans les 2 ans. Il est ouvert à partir de l'âge de 26 ans et sans limite. Donc là, c'est plus les jeunes, c'est plus les adultes. Le soutien financier de l'État porte principalement sur un ensemble de cotisations sociales. Alors, est-ce qu'on est encore dans le service civique ou c'est quelque chose
c'est un dispositif
différent.
Qui n'a jamais bien marché, effectivement. Nous, on a dû répondre à des associations qui me posaient la question. En fait, c'est complètement différent. Le service civique volontaire, donc les jeunes s'engagent dans une structure et c'est l'État qui indemnise les jeunes. Une partie, donc les 473 euros et des poussières, donc indemnité de l'État. Et la structure d'accueil est tenue de verser 107,58 euros. C'est très précis. Pour le volontariat associatif, c'est la structure d'accueil qui prend en charge en totalité. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est plus un dispositif d'engagement de la jeunesse, c'est un dispositif d'engagement, tout simplement. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne véritablement. Voilà. En tout cas, on n'est pas là-dessus.
Mais c'est vrai qu'au niveau des termes, ça finit par s'entrecroiser. Tous ces termes de volontariat, associatif, civique.
Il y en a d'autres. Voilà. Les volontariats européens, internationaux.
On finit par ne plus s'y retrouver. Alors, revenons un petit peu plus sur les missions qui sont remplies par ces jeunes. Et là, peut-être que Caroline et Basile, vous pouvez intervenir. Comment vous avez trouvé cette mission? D'abord, comment vous avez entendu parler du service civique? Comment vous en êtes venu à rejoindre Unicité? Et cette mission, donc, on vous l'a amenée, on vous l'a proposée, ou c'est vous qui êtes allé la chercher? Parce que je crois qu'il y a les deux possibilités. Hein. On peut avoir accès à des listes de missions, ou en tout cas, des missions proposées, ou alors le jeune peut vraiment aller à la recherche. Donc, tous les deux, comment ça s'est passé, ce contact d'abord avec le service civique?
Alors, moi, du coup, j'ai voulu faire un service civique pour réfléchir à mon orientation. J'ai eu mon bac l'année dernière Et donc, en fait, j'ai cherché un service civique sur Internet et j'ai tout simplement trouvé l'association d'Unicité sur le site de servicecivique.gouv. Et donc, je me suis rendu à une des réunions d'information que propose Unicité, où elle présente l'association, tous les programmes qu'elle présente. Et donc, lors de cette réunion d'information, j'ai directement été intéressé par un des programmes, donc celui que je fais, Jeune Ambassadeur des Droits pour l'Égalité. Et directement, j'ai passé des entretiens pour m'engager.
D'accord. Mais à la base, tu as dit que tu venais de passer ton bac.
Voilà.
Comment tu as eu connaissance du service civique ? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les jeunes en ont tous entendu parler d'une manière ou d'une autre ? Ou malgré tout, c'est, je ne sais pas, peut-être dans le cadre de l'établissement où tu as passé ton bac, on en parlait déjà ?
Quand j'étais en terminale, il y avait des personnes du coup, qui s'inscrivaient sur Parcoursup pour poursuivre sur des études supérieures. Et il y a des personnes qui ne savaient pas forcément quoi faire l'année prochaine ou pour d'autres raisons voulaient faire un service civique, justement. Et moi, en fait, j'ai commencé le début d'année, j'ai fait un mois et demi à la fac. Et donc, une fois à la fac, en fait, ma licence ne m'a pas plu. Et donc, j'ai voulu faire un service civique. Et du coup, j'y ai pensé, en fait, parce que j'ai connu ça, en fait, en terminale. Du coup,
mais voilà. De quelle manière c'est quelqu'un qui est venu en parler
Les professeurs.
C'est les professeurs, d'accord. Ouais. D'accord. Et Caroline, de ton côté?
Alors, du coup, moi, de mon côté, j'ai connu le service civique parce qu'une amie a fait un service civique dans, justement, Unicité, l'association où on est. Mais il y a aussi eu des interventions de personnes extérieures dans mon lycée qui sont venues parler du service civique.
D'accord.
Mais je sais que ce n'est pas le cas partout et qu'effectivement, beaucoup de jeunes ne connaissent pas le service civique.
Ah ok, donc ça c'est important à le signaler, parce que si on se basait sur vous, on peut se dire, ah, bah, ça va, l'information elle circule dès le lycée, c'est pas le cas.
Non,
alors
non.
Du coup, Myriam, Vincent, l'information sur le service civique, Non,
pas du tout, franchement, moi justement c'est mon métier principal d'informer les jeunes sur le service civique, donc je me déplace un peu sur beaucoup de territoires de l'agglo, à la rencontre des jeunes, en essayant de leur expliquer sur des formules assez attrayantes ce que ça pourrait être comme expérience. Et on se rend compte qu'en fait, voilà, bah, y a des financements d'État qui sont dégagés parce que le premier problème vient de là. De tous ces dispositifs qui se ressemblent au même nom pratiquement, finalement, l'offre, elle est un peu brouillée, quoi. Donc du coup, le jeune ne prend pas vraiment la pleine mesure de toutes les alternatives qui lui sont proposées dans les dispositifs.
Si on continue donc sur ce que cette mission peut apporter, avant même finalement la plus-value pour les jeunes, comme on dit, quels sont les droits et les devoirs du jeune volontaire ? Qu'est-ce qu'il s'engage à faire et qu'est-ce qu'il peut réclamer en échange ?
Alors, il s'engage sur une mission. Voilà, soit c'est le jeune qui co-construit sa mission, ça c'est intéressant, avec la structure. Et c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus pour éviter l'histoire de l'offre et de la demande. Je crois que ça, c'est intéressant. Et donc, une fois que la mission, eh ben, le jeune s'engage, hein, pour au moins 6 mois, puisque c'est 6 mois minimum, il s'engage à respecter juste le cadre de la structure. Et puis, bien sûr, il s'engage à faire sa mission. Mais en contrepartie, la structure d'accueil, elle a une obligation de moyens. Hein, un jeune, il doit être vraiment accueilli dans l'équipe, dans les équipes. Souvent, au début, ce n'est pas des jeunes qui sont forcément opérationnels. On ne recherche pas ça. On recherche des jeunes motivés. Et donc, eux, ils s'engagent. Mais en contrepartie, les structures s'engagent à les accompagner. Et si vous parlez de l'engagement des jeunes, il y a aussi l'engagement. Qu'est-ce que doivent faire les structures et les tuteurs et les tutrices, puisque...
C'était la question suivante.
Ah bon, alors je vais trop loin.
Donc là, oui, effectivement, on reste sur l'engagement.
Et en contrepartie de leur engagement, ils ont leurs indemnités, ils ont droit à des formations, bien sûr, les formations civiques citoyennes, ils passent le PSC1, premier secours. Voilà un petit peu, mais c'est dans les deux sens.
Est-ce qu'il y a le droit pour le jeune de pouvoir rompre son engagement à n'importe quel moment, des 6 mois ou des 8 mois ou 9 mois ou 12 mois, parce que c'est forcément 6, 12, ou il me semblait qu'il y avait aussi des intermédiaires.
En ce moment, c'est 6 mois. Par exemple, en fait, franchement, ça, c'est des décisions qui sont prises à l'échelle départementale, d'après ce que j'en sais. Et donc, là, on a des consignes qui font qu'on ne peut pas proposer d'agrément de plus de 6 mois. Donc, tout le monde négocie pour que ça augmente. Voilà, donc ouais. Il y a des changements, ça aussi, ça facilite pas la visibilité.
D'accord. Jusqu'à présent, c'était une moyenne de 8 mois, des missions de 12 mois, en tout cas, nous, on n'avait pas, hein, mais maintenant, c'est entre 6 et 7 mois. Voilà, le nombre de mois a été réduit par l'enveloppe, hein, l'enveloppe qu'on appelle ça. Du coup,
est-ce que les jeunes auront la possibilité de rompre à n'importe quel moment?
Oui, voilà.
Ou est-ce qu'ils sont obligés une fois qu'ils sont engagés?
Ça peut venir des deux parties. La structure, bon, malheureusement, peut aussi rompre si vraiment il y a problème. Et le jeune aussi peut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune, le service civique, normalement, c'est une seule fois dans la vie. En fait, finalement, on peut faire son engagement qu'une fois.
On peut faire qu'un seul service civique.
Mais
hein.
Dans le cadre où un jeune ou une structure décide de se séparer, il faut que le service civique ait duré moins de 5 mois. Si le service civique a en tout duré moins de 5 mois, le jeune pourra recommencer un engagement de 6 mois, de total. Oui.
Il faut savoir que les ruptures anticipées, enfin, dans notre expérience, c'est souvent les jeunes, parce que soit ils ont retrouvé un travail, un CDD ou un CDI, encore mieux, ou soit ils ont d'autres problèmes familiaux, ils doivent partir. Enfin voilà, il y a tous les cas de figure. Et quand un jeune souhaite faire une rupture, ben, on ne va pas l'empêcher, hein, de toute façon. Mais c'est plutôt, en tout cas dans notre expérience, c'est plutôt dans ce sens-là. Quand c'est bien mené, bien accompagné, il n'y a aucune raison, sauf cas exceptionnel, qu'une structure demande une rupture et on ne fait pas n'importe comment. C'est pas parce que le jeune, au départ, bah, il n'est pas opérationnel, ça c'est interdit, on ne fait pas une rupture pour ça. Hein. Justement, on doit lui donner tous les moyens de réussir et le jeune doit pouvoir s'épanouir dans la structure. En tout cas, il faut travailler là-dessus parce que...
Donc ça c'est important pour éventuellement ceux qui nous écoutent, qui pourraient être des structures d'accueil, de bien comprendre qu'il y a un accompagnement hein, qui est sous-entendu dans ce, lorsqu'on accueille.
Bien sûr.
Un service civique.
Ah ben c'est la réussite d'une mission, c'est l'accueil des jeunes. Ça, c'est clair. Hein, avec les équipes, quand il y a des salariés, des stagiaires, enfin, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans une asso ou dans une autre structure, dans une collectivité. Donc, on dit toujours que l'accueil est vraiment très important, comment le jeune trouve sa place. Que les équipes aient bien compris le statut du service civique. Ça, c'est un travail qu'on fait systématiquement pour bien comprendre qu'est-ce qu'un volontaire, qu'est-ce qu'un statut de service civique. C'est pas un emploi, c'est pas un stagiaire, c'est pas un bénévole, il y a une loi autour de ça qui le cadre très bien. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a l'accompagnement, effectivement, les tuteurs ont obligation de se former maintenant. Il y a des formations de tuteurs obligatoires qui sont faites dans tous les départements, c'est un marché national, hein, ensuite décliné dans les DDCS. Et les formations des tuteurs sont faites par ou des gens d'Unicité, ou des gens de la Ligue, ou de la FEV, quand il s'agit des tuteurs éducation nationale, hein, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est très important. Je crois que l'État et l'Agence du service civique est en train de pousser vraiment pour que les formations de tuteurs soient incontournables.
Oui,
je voulais juste ajouter, nous, en fait, quand on rencontre des structures et quand on accompagne justement des tuteurs, on essaie d'expliquer à la structure que c'est quand même à peu près 30% d'un équivalent temps plein qu'il faut dédier à l'accueil du volontaire. Donc, en fait, après, ça permet à la structure, lui, de répartir selon bah, qui peut l'accompagner, comment se répartir entre salariés. Mais voilà, enfin, Myriam a bien précisé, c'est vraiment un statut très particulier. Les équipes, il y a un gros temps, en fait, de médiation pour expliquer, finalement, quelle plus-value va pouvoir apporter le jeune et dans quel cadre.
Avant de continuer sur ces obligations des organismes d'accueil, il y a un point que j'ai relevé sur le bilan 2018 des services civiques, c'est en termes de répartition garçons-filles. Il y a beaucoup plus de jeunes filles, jeunes femmes, qui font des services civiques. C'est 2 pour 3, enfin 2 pour 1 donc. 2 fois plus de jeunes filles, jeunes femmes, décidément, que de jeunes hommes. Comment ça s'explique, ça?
Alors, j'aurais peut-être un élément de réponse. C'était marrant parce que les années d'avant, ça s'équilibrait. Mais je pense qu'il faut savoir que l'éducation nationale, depuis quelques années, accueille des volontaires en service civique. Hein, c'est la plus grosse structure d'accueil en dehors de la Ligue ou d'Unicité, l'éducation nationale. Il faut savoir que l'éducation nationale, bah, la majorité, pour ce que je vois, parce qu'on fait les formations civiques citoyennes pour les jeunes volontaires de l'éducation nationale, c'est beaucoup de filles. Ça reproduit, en fait, le schéma, peut-être, hein?
Ah, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut dire que c'est, enfin, nous, en tout cas, à Unicité, il y a beaucoup de missions qui sont proposées aux volontaires sur du service à la personne. Et donc, du coup, on rentre un peu dans des schémas d'ambition professionnelle, d'appétence.
Donc ça serait plus finalement les missions qui font cette espèce de sélection au niveau des réunions d'information. Il y a autant de femmes que d'hommes qui viennent
y assister. Je pense que c'est les missions. Alors c'est vrai où on trouve les garçons. Bah, vous avez dû le voir peut-être dans cette infographie, dans le monde sportif, évidemment. Mais là, on est vraiment dans les schémas classiques. Hein, dans le monde sportif, il y a plus de garçons.
C'est
clair. Après, le service à la personne, c'est vrai, ça c'est évident aussi. Dans le monde culturel, dans les assos culturels, ça se partage.
Mmh. Avant de faire la pause musicale, donc on termine avec ces obligations des employeurs. On le comprend, il faut quand même que l'organisme qui envisage d'accueillir un ou deux services civiques, ils doivent d'abord bien réfléchir de toutes les obligations, toutes les contraintes que ça suppose de leur part.
Oui. L'obligation, elle est énorme sur l'accompagnement des jeunes sur leur projet d'avenir. Ça fait partie des obligations des tuteurs, des structures d'accueil. Projet d'avenir et projet professionnel, parce que l'idée, c'est pas de prendre un jeune, au bout de 6 mois, on change, on en reprend un autre. L'idée, c'est que de le suivre et puis de lui permettre ensuite de rebondir et de lui donner toutes les armes, en fait, pour aller dans la vie. Donc ça, c'est important.
Et effectivement, ces dérives, on va les évoquer dans la deuxième partie, puisque vous citiez là des organismes qui peuvent envisager de renouveler sans arrêt des services civiques sur un poste. Il y a aussi des structures qui considèrent les jeunes services civiques comme des stagiaires à bon prix. Donc il y a cette espèce de ligne un peu floue pour certains organismes entre la mission de service civique et un emploi. Tout simplement. Donc, on va y revenir dans la deuxième partie. Je vous propose de faire une pause musicale. Et pour vous qui nous avez peut-être rejoints en cours de route, vous êtes bien sûr News FM sur le 101.2 et vous écoutez La Voix de l'Emploi. Nous parlons aujourd'hui du service civique. On retrouve nos invités pour poursuivre la discussion tout de suite après une petite pause. À tout à l'heure.
My whole stable, I don't lie to them, no fables. Wrapped on country flavor. Now we worldwide, we made a big brand. Now our catalog is so major. Rodeo a Rodale, portfolio is so player. Tomato a tomato, Nas X or Big Nas, this shit ride. Nas and Nas X.
Voix de l'emploi, c'est sur News FM. Et voilà, nous repartons donc pour la deuxième partie de cette Voix de l'Emploi d'aujourd'hui sur News FM. Nous parlons du dispositif des services civiques. Nous sommes toujours en compagnie de Myriam Zerkaoui, référente service civique auprès de la Ligue de l'Enseignement de l'Isère, de Vincent Huette, animateur territorial à Unicité, et puis Caroline et Basile, deux jeunes en mission de service civique. Alors, juste avant la pause musicale, on abordait la question des obligations des employeurs organisme d'accueil. Depuis 2010, année de lancement des services civiques, des critiques se sont faites entendre, notamment sur le fait que les services civiques sont utilisés par les employeurs en substitution d'emplois classiques. On citait donc ceux aussi qui enchaînent les jeunes, les services civiques pour occuper un job sans réel accompagnement ou formation. Il y a ceux qui considèrent que ce sont des stagiaires. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là que vous, Vincent, Myriam, vous devez combattre puisque vous sensibilisez les organismes d'accueil pour bien leur expliquer que, voilà, volontairement ou involontairement, ils ne doivent pas commettre ces erreurs-là.
Alors c'est sûr, mais c'est simple. Hein. La loi du 10 mars 2010, c'est une loi avec plein d'articles. Et un des articles qui est gravé dans le marbre, le service civique n'est pas un dispositif d'emploi, ne doit pas faire concurrence à l'emploi ni au bénévolat. Ensuite, un deuxième article qui est très important, le volontaire, il dépend du service du code national et pas du code du travail, et que le jeune signe un contrat d'engagement, pas un contrat de travail, et les structures qui accueillent, quand elles font une demande d'agrément ou quand elles passent par l'intermédiation, la demande d'agrément, c'est sur une mission d'intérêt général, c'est pas sur un poste. C'est une grande différence. Donc, ça, c'est clair qu'il y a la loi, elle est cadrée pour ça. Après, respecter la loi, c'est une autre chose, et c'est pour ça que l'intermédiation, pour nous, ça nous paraît une évidence, justement, pour accompagner, parce que des fois, il y a une méconnaissance aussi. Mais quand il y a un accompagnement, on évite ces dérives. Voilà.
Et Vincent, vous en parliez aussi avant qu'on prenne l'antenne, la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale, on rappelle que tout à l'heure on l'a dit, hein, c'est le niveau intermédiaire, on va dire, entre la grande agence du service civique et puis ensuite toute la base de la pyramide de ce dispositif. Eux, ils sont en train de réfléchir à davantage de contrôle.
Ah, mais c'est déjà en place, en fait, finalement, parce que, bon, bah, c'est comme dans tout programme, bah, il faut bien contrôler un peu la bonne marche du programme. Donc, oui, ils ont un petit peu vent. En fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'une structure peut aussi perdre son agrément en cours de mission. C'est déjà arrivé, bon, pas souvent, parce que, justement, il y a une médiation, il y a un accompagnement, mais c'est quand même possible pour une structure qui ne jouerait vraiment pas le jeu. Après, moi, de ce que je vois sur le terrain, c'est plus un manque de connaissances, un manque d'habitude de ce statut intermédiaire entre l'emploi et le stagiaire, qu'une volonté de corrompre réellement, de pervertir la chose, en fait. Et donc, du coup, pour le coup, moi, je pense que c'est souvent involontaire. Et donc, bah, c'est là où je rejoins Myriam. Il faut vraiment que les structures se servent des intermédiations, des gens qui sont experts pour ne pas rentrer dans le risque, en fait. Mais oui, l'État organise des contrôles et c'est un équilibre qui est plutôt bien à trouver.
De l'autre côté, et là, Basile et Caroline peuvent aussi peut-être apporter leur avis, ou en tout cas ce que vous avez pu constater peut-être, est-ce qu'il n'y a pas aussi des jeunes qui, malgré les réunions d'information où on leur explique bien qu'un service civique, c'est une mission d'intérêt général, que ce n'est pas un emploi, etc. Est-ce qu'il n'y en a pas quand même qui se lancent dans ce genre de dispositif, simplement en se disant bah, « ça va être un job ». Pour 6 mois, donc on l'a vu, ça pouvait durer jusqu'à 12 mois. Ça va m'apporter à une petite rémunération qui n'est pas énorme, mais voilà, c'est toujours bien à prendre. Et pour eux, il n'y a pas ce côté, on s'engage au service de la communauté, mais c'est plus pour avoir une petite expérience, un petit job à durée déterminée. Donc, Basile Caroline, est-ce que vous avez pu entendre des fois ce genre de retour chez des jeunes autour de vous?
Alors moi, en tout cas, dans mon cas, je fais service civique pour faire le service civique, mais aussi pour, du coup, que ça me fasse une approche du monde du travail. C'est pas un emploi, mais ça s'en approche quand même. On a un cadre, un contexte, et du coup, c'est forcément en lien indirectement. Du coup, moi, personnellement, ça me permet justement de m'habituer, de prendre des repères dans un cadre du travail. Mais j'ai quand j'en parle à mon entourage ou quand j'en entends parler, les gens pensent effectivement que c'est un emploi, alors que non. Et c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui ne connaissent pas réellement ce que c'est, de comprendre la différence entre un service civique et un emploi.
Basile, si tu veux rajouter quelque chose, tu le peux. Sinon, j'allais donc redonner la parole à Vincent.
Non,
je suis
d'accord avec Caroline. Enfin, nous, en tout cas, notre mission se rapproche plus du monde du travail que de l'école, l'université, parce que tous les matins, on se lève, on va. Enfin, nous, on a des bureaux à la métropole. Enfin, on a une routine de personnes qui travaillent. On utilise plein d'outils numériques ou enfin du monde du travail en fait. Mais sinon, moi personnellement, je le vois plus comme un engagement citoyen et comme enfin une espèce de bénévolat, même si on touche une indemnité en fait, du bénévolat, voilà, pour me rendre utile.
C'est vraiment le truc de se rendre utile aussi.
Ouais.
Donc du coup, Myriam, Vincent, est-ce que il y a aussi cette tendance chez certains jeunes de voir juste le côté, c'est un petit job.
Oui, en accompagnant des jeunes, mais bien, c'est une évidence finalement. Il faut se mettre aussi à leur place, où c'est un dispositif pour eux, qui est fait pour eux, et qui leur permet aussi de toucher une petite indemnité. Et franchement, entre 16 et 25 ans, le marché de l'emploi est un peu bouché. Des fois, ça peut être une alternative immédiate et intéressante. Alors moi, je pense que le dispositif n'est pas perverti de cette façon, parce que finalement, l'intérêt général est déterminé par l'agrément donné par la DDCS. Et finalement, c'est la structure qui porte l'intérêt général plus que le jeune individuellement parlant. Donc voilà, on peut observer ça sous deux angles. La nécessité du jeune, son lien avec une première immersion semi-professionnelle et la structure qui va proposer le cadre de l'intérêt. Donc moi, je trouve ça tout à fait normal. Et c'est même l'indemnité, c'est même quelque chose que je mets en avant pour les jeunes, pour leur expliquer que finalement, c'est un engagement, mais que ça leur permet aussi de subvenir un minimum à ce qu'il y a à leurs besoins.
Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le service civique, on a dit, le cadre, c'est 24 heures minimum jusqu'à 35.
Donc les heures hebdomadaires.
Les
heures hebdomadaires, par semaine.
Oui, par semaine.
Oui.
Moi, je veux juste préciser, nous, à la Ligue de l'enseignement, mais peut-être Unicité, dès le départ, nous, on ne valide que des missions de 24 heures par semaine. Parce que le jeune, dans tous les cas, il peut faire autre chose à côté, il a le droit de travailler aussi. Hein. On peut cumuler ces deux statuts, il peut être étudiant, il y a des étudiants, il y en a qui s'engagent ailleurs. Et ça permet aussi d'éviter, en fait, ce basculement dans l'emploi, de faire des missions de 35 heures. Voilà. Donc ça a été un pari dès le départ pour nous, la Ligue de l'enseignement, sachant que l'indemnité est exactement la même que vous fassiez 24, 28 ou 35 heures. D'ailleurs, la majorité des missions maintenant, c'est 24, 26 heures. Hein, voilà.
Donc, nous aussi, on est passé à 24 heures. C'est bien plus efficace, finalement, ça évite un gros temps où les deux peuvent se perdre un petit peu, où le jeune ne sait plus trop quoi faire, la structure n'a pas forcément quelque chose à donner, donc en fait, finalement, tout le monde convient que 24 heures, c'est très bien pour tout le monde.
Alors, maintenant, on va vous écouter un petit peu plus, Basile et Caroline, pour qu'on comprenne un peu mieux un exemple, parmi d'autres, de mission, sur laquelle vous vous êtes engagé, parce que c'est vrai que, a priori, comme ça, on peut se dire, mais on ne comprend pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes? Qu'est-ce qui fait que c'est une mission d'intérêt général et que ce n'est pas un job, un emploi? On comprend qu'il y a quand même, c'est lié, et ça vous apporte une expérience que vous valoriserez sur vos CV. Alors, juste pour revenir sur vos parcours à tous les deux, on l'a compris, Basile, toi, tu as enchaîné directement après ton bac.
Oui, j'ai commencé le début d'année en septembre à la fac, à l'université, mais du coup, j'y suis resté un mois et demi. Et du coup, je me suis un petit peu trompé du coup dans mon orientation. Et du coup, j'ai directement pensé au service civique, en fait. J'ai entamé mon service civique mi-octobre.
D'accord. Tu as quel âge ?
18 ans.
18 ans. Caroline, ton âge ?
18 ans aussi.
18 ans aussi. Alors Caroline, est-ce que c'est un petit peu similaire ?
Oui, c'est un peu similaire. Je sors aussi d'un bac. Moi, par contre, j'ai pas souhaité enchaîner mes études en fac ou quoi que ce soit. Et justement, je me suis penchée sur le service civique pour pouvoir déjà me rendre utile, comme on l'a déjà dit, et pour ensuite aussi que ça me permette d'acquérir des compétences, des connaissances, et aussi de pouvoir réfléchir sur ce que je peux faire après ce service civique.
Alors du coup, expliquez-nous un petit peu plus en quoi consiste votre mission. Qu'est-ce que vous faites chaque jour ?
Alors nos missions consistent à faire des interventions dans les collèges, plutôt les classes de 3e, dans les lycées, dans les structures comme les missions locales, Garantie Jeunes, MJC.
Toutes les structures qui accueillent un public de 14 à 25 ans et voilà, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap.
Et du coup, on fait des interventions qui peuvent se dérouler en une ou deux parties. En deux parties, c'est plutôt dans les établissements scolaires où on fait une première intervention avec un diaporama du défenseur des droits où on explique ce que c'est la discrimination, comment elle se construit et au terme juridique aussi, qu'est-ce que c'est, comment la reconnaître. Et après, en deuxième intervention, on leur fait des animations sur la discrimination, comment la repérer, comment la combattre, comment ils réagiraient aussi si jamais ils sont discriminés.
Voilà. Oui, c'est en fait il y a deux approches en fait dans nos interventions. Du coup, la première intervention, comme Caroline l'a dit, c'est une première intervention plutôt, elle est théorique en fait. Donc c'est un diaporama, il y a pas mal de textes. On déroule beaucoup de connaissances, mais la deuxième, du coup, intervention pour les personnes qui ont, par exemple, un peu plus de mal avec le côté scolaire, on fait en fait des animations et des jeux, et du coup, elles comprennent de manière ludique en fait, et du coup, c'est assez intéressant.
Et aussi, ce qu'on met en point de...
Approche-toi du micro.
Pardon. Ce qu'on essaye de faire aussi le maximum, c'est que ce soit dans le diaporama ou dans les animations, avoir un maximum d'interactions avec eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas pendant une heure leur parler d'un diaporama, on les fait participer avec nous pour qu'ils se sentent concernés.
Mais l'interactivité qui est très importante pour garder leur intérêt.
Voilà.
Ils
ne
voient pas
ça
comme un cours parmi d'autres.
Oui. Puis en plus de nos interventions, nous, en fait, elles ont un petit plus, si je puis dire, parce qu'on est des jeunes et on s'adresse à des jeunes. Du coup, il y a un rapport de proximité qui fait que les jeunes ont plus tendance à se mettre à notre place et à vouloir nous écouter, en fait. Voilà.
Alors, on rappelle que le défenseur des droits, il y a une délégation iséroise, il y a une dizaine de délégués. On en reçoit un, Gérard Brion, régulièrement sur notre antenne, qui est plus spécialisé sur la défense des droits des enfants.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc ils sont une dizaine sur le département de l'Isère. Vous travaillez en étroite collaboration avec
Alors nous, ce ne sera pas avec Gérard Brion, nous, c'est plutôt avec Shaza Anna, qui est une nouvelle déléguée sur le département de l'Isère. Mais oui, on travaille avec eux. Oui. Si on a le moins de questions, la moins d'interrogations, on peut la contacter. Et elle est toujours là pour nous répondre, pour nous aider ou quoi que ce soit.
Les outils que vous utilisez, ça existait déjà ou c'est vous qui les avez créés ?
Alors, il y a une partie des outils. Donc, le diaporama, c'est le défenseur des droits qui nous l'a donné. Les animations, on a quelques animations que le défenseur des droits nous a également données, mais... on essaie toujours de nous apporter notre petite touche en fait. Le défenseur des droits nous a donné un diaporama type en fait que nous on a modifié avec le temps, qu'on adapte en fonction de nos interventions. On essaye de voir ce que les jeunes retiennent le plus, qu'est-ce qui est le plus important qu'ils retiennent. Enfin, on souligne bien les trucs les plus importants et ensuite pour les animations, on a créé aussi des animations. Voilà.
D'accord. Vous êtes toujours en binôme ou même avec plus
c'est
individuel que
on est une équipe de 4 sur Grenoble et on est divisé en du coup deux groupes de binômes et après on peut faire des interventions à 4 ou par binôme. Tout dépend les types d'interventions qu'on fait.
Alors, est-ce que ça veut dire que tous les jours de la semaine, parce que la mission, vous la faites du lundi au vendredi ?
Du mardi au vendredi.
Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps dans un établissement scolaire pour faire une présentation. Donc, qu'est-ce que vous faites quand
dans ce cas-là, on est au bureau, on fait du démarchage d'établissement pour prévoir les prochaines interventions. On prévoit justement les papiers qu'on a besoin d'apporter lors des interventions et on essaye de créer des nouvelles animations, de rendre notre diaporama plus ludique, plus interactif, de toujours essayer d'apporter quelque chose de nouveau qui peut leur plaire et qui peut les intéresser.
Et on fait aussi également des réunions avant qu'on intervienne dans les établissements. On doit rencontrer toujours les établissements avec une personne référente qui va nous accompagner lors de l'intervention dans l'établissement. Et aussi, du coup, comme l'a dit Caroline, on fait beaucoup, beaucoup de démarchages, car tous les établissements et toutes les structures où on intervient, c'est nous qui les démarchons, et voilà. Sacré travail.
D'accord. Ça occupe bien vos journées. Est-ce que la mission, en fin de mission, il faut que les jeunes fassent une restitution, il y a un compte rendu, un bilan avec des professionnels. Comment ça se passe, la fin d'une mission pour un jeune?
Alors ça va dépendre où, mais oui, il y a toujours une phase de bilan en fait, finalement, sur ce que ça a apporté. Nous, à Unicité, c'est des temps collectifs de restitution. Du coup, en fait, on appelle les partenaires, on appelle les structures dans lesquelles elles sont intervenues, et on incite les jeunes à s'exprimer sur ce que ça leur a apporté, finalement. Donc ouais, nous, en tout cas, oui, moi, de ce que je vois, ou même dans les structures indépendantes, enfin un peu les associations, en fait, on travaille sur un temps de bilan avec le tuteur et le jeune en service.
D'accord.
Oui, il y a les bilans à la fin, mais il y a surtout les bilans intermédiaires qu'il faut faire avec les structures et les jeunes. En tout cas, ça, on y tient beaucoup. On a des outils pour ça. Hein, au bout d'un mois, l'idée, c'est qu'ils puissent faire un bilan où ils en sont, faire le point, parce que ça peut bouger une mission, en fonction du jeune. Et ensuite, en milieu de mission, alors là, elles sont un peu écourtées. 6 mois, ça passe vite. Hein, mais quand on était sur des missions de 10 mois, ben voilà, c'était important qu'il y ait des phases comme ça de bilan ou de bilan mi-parcours. On met à disposition des outils aussi pour que les jeunes puissent vraiment prendre le temps avec leur tuteur d'échanger, de se poser. Ça, c'est hyper important. Et puis, il y a tout des documents que nos structures doivent remplir aussi maintenant sur comment ils sont accompagnés. En fait, sur leur projet professionnel, projet d'avenir, nous, on aide à le faire. Hein. Les jeunes, ils viennent me voir aussi. Ça se fait à deux, enfin, structure et nous. Et ça, c'est très important. Il y a les bilans, il y a tout ça, mais il y a aussi toute la partie, et on insiste beaucoup là-dessus, l'accompagnement du projet d'avenir, ça s'appelle l'APA, projet professionnel. Voilà, donc c'est du temps, effectivement, pour tout le monde.
Caroline et Basile, c'est une mission de 6 mois?
Non, 9 mois.
Neuf mois. Et vous en êtes à combien de mois?
On a commencé mi-octobre et on finira fin juin.
Donc vous êtes au milieu.
Oui.
On va dire, donc pour l'instant, c'est plutôt un bilan positif que vous tirez ça. Ça vous intéresse vous avez l'impression de servir à quelque chose. Hein, c'est... Oui. Caroline, je crois que c'est toi qui disais c'est pour servir. Hein,
oui, pour s'entraider. Bah, de toute façon, on est d'accord là-dessus.
Donc ça vous plaît ce que vous faites?
Oui. Bah, d'ailleurs, la plupart des volontaires disent ça, en fait. Ils ont envie de se rendre utile. Et donc là, pour la mission, moi, je trouve personnellement que ça m'a beaucoup apporté. Parce que déjà, prendre la parole en fait en public devant des élèves, c'est assez impressionnant et c'est un vrai travail. Donc ça m'a beaucoup apporté parce que au fur et à mesure d'intervention, je suis de plus en plus à l'aise à l'oral et donc on acquiert une certaine confiance en soi. Et la mission se déroule très très bien. On a démarché pas mal d'établissements. On a un agenda assez rempli. Et oui, notre équipe
se passe super bien.
Très très bien. On est tous très très motivés et ouais, c'est super enrichissant et très intéressant comme service civique.
Et est-ce que ça vous donne envie d'ensuite continuer dans un milieu professionnel qui serait lié d'une manière ou d'une autre avec ce que vous avez fait là? Ou en tout cas, ça vous a au moins donné quelques bagages, quelques compétences?
Alors moi, oui, partiellement, parce que je ne suis toujours pas fixé sur mon orientation future, sur qu'est-ce que je vais faire en septembre, mais... J'ai l'idée de devenir éducateur en PJJ, donc à la protection judiciaire de la jeunesse. Et j'ai eu cette idée justement lors de la rencontre de deux éducateurs PJJ qu'on a rencontrés avec le service civique en fait. Donc oui, c'est très très enrichissant et on développe. Moi ça m'a beaucoup servi pour.
Voilà, et ça peut créer effectivement des vocations, ça permet de découvrir des secteurs de professionnels. Et Caroline, pour toi?
Moi, pour mon orientation, je ne sais toujours pas ce que je veux faire, mais travailler dans le social, pourquoi pas? Mais à l'heure actuelle, j'en ai vraiment aucune idée pour l'instant.
Bon, tu es encore jeune, 18 ans, tu as le temps de voir venir. Myriam, Vincent, pour terminer, justement, ce côté passerelle vers l'emploi, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaité à travers le service civique, même si voilà, il y a des moments où il faut faire attention que ça ne soit pas considéré comme des emplois, mais d'un autre côté, ça peut aussi faire un lien, du coup...
Oui, alors ça, c'est deux choses différentes, effectivement. Il y a le service civique en tant que tel qui n'est pas un emploi, mais par contre, une passerelle vers l'emploi, c'est évident, puisque ça devient de plus en plus valorisé, le service civique, chez les employeurs. D'ailleurs, Unicité ou d'autres, l'Institut de l'engagement travaille sur cette question de la reconnaissance du service civique. Et là, dans les entreprises diverses et variées, hein, les entreprises privées, et c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a un petit peu, parce que nous, on essaie d'avoir un suivi quand les jeunes sont partis. Bon, maintenant, on ne revoit plus, mais d'autres, on aime bien savoir ce qu'ils deviennent. Et beaucoup nous ont dit qu'ils ont utilisé, si vous voulez, leur expérience pour défendre ça quand ils avaient des entretiens professionnels. C'est des profils quand même particuliers. Ça veut dire que c'est des jeunes qui ont passé des quelques mois à être engagés à faire quelque chose quand même, à s'organiser, à travailler dans des équipes, à rencontrer différents métiers, donc ils ont acquis des compétences énormes. Mais le travail qu'ils doivent faire pendant le service civique, c'est de les accompagner sur comment eux, ils se valoriser leurs compétences. Bon, il y a des outils comme ça, hein, ben vous le faites aussi. Comment les jeunes, au bout de 3 mois, comment ils arrivent à valoriser leurs compétences, qu'est-ce qu'ils savent faire, pas faire, sur quoi ils... Ça, c'est très important, ça fait partie de l'accompagnement. Une fois qu'ils ont fait ça, c'est facile après, quand ils passent des concours, des entretiens, bah, comme tu l'as dit, hein, on est à l'aise à l'oral. Moi, je trouve que c'est vraiment un tremplin, effectivement. Mais voilà.
Alors moi, je trouve que déjà, je voulais dire que moi, je vois, en fait, j'ai rencontré les deux jeunes au début de l'année, au début de votre mission. Donc je vois déjà une grosse progression au niveau de l'expression, de la confiance en soi. Donc je me dis que voilà, déjà ça produit ça et on peut le palper immédiatement. Après, moi je pense que finalement le service civique, c'est de fait un lien au monde professionnel, parce que ça touche des jeunes qui, avant 16 ans, c'est difficile de travailler. Donc forcément, ils seront sur une approche du monde professionnel dans cet âge-là. Donc dans l'aide à la définition du projet d'avenir, nous en tout cas, on incite pour qu'elle y soit de par le tuteur d'accueil, parce que pour ce jeune, dans son âge, ça sera forcément un tremplin vers l'emploi, une expérience semi-professionnelle.
Et un tremplin aussi pour bifurquer dans son projet d'études, par exemple. On en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'ils sont plantés dans leur orientation. Et puis, en faisant une mission de service civique, ils rencontrent des partenaires. Ils font une découverte métier, c'est très important. Et on en a beaucoup qui, finalement, changent complètement leur... même des jeunes diplômés. Hein. On a eu les masters qui se sont dit « Mais là, moi, ça ne m'intéresse pas. » Ou des ingénieurs, on en a quelques-uns. Mais pas parce qu'ils ne trouvent pas de boulot, c'est qu'ils ont envie de changer complètement. Et ils veulent se mettre sur des associations, tout ce qui est écologie, transition écologique. Ça, c'est... Donc, il y a aussi un tremplin aussi pour réfléchir à son projet, à retour à la formation, retour aux études. Ça, c'est important aussi.
Une parenthèse, qui permet de faire le point sur ce qu'on veut faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le profil, cette période apporte forcément quelque chose. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Pour terminer, juste donner peut-être rapidement les pistes pour avoir des infos. Donc, il y a Unicité, il y a vos structures, Unicité, la Ligue de l'enseignement de l'Isère, les sites web, il y a la plateforme du service civique, ça se trouve très facilement. De toute façon, on tape service civique, on arrive d'une manière ou d'une autre à avoir des infos pour répondre aux questions qu'on se pose. On peut déjà avoir des réponses et puis ensuite, on a les contacts des structures, donc c'est assez facile d'avoir toutes ces informations. Merci à tous les quatre, bonne continuation, merci. Basile, Caroline, dans cette mission auprès des jeunes avec le défenseur des droits. Je rappelle donc que cette voie de l'emploi consacrée au service civique nous a permis de discuter avec Myriam Zerkaoui, référente service civique chargé de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement de l'Isère, Vincent Huette, animateur territorial à Unicité, et donc Basile et Caroline en service civique actuellement, pour quelques mois encore. Merci à toutes et tous pour votre participation à cette émission. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. À bientôt sur News FM pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi. Salut! C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du Cégette, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.